potes, venez chez moi, y'a pas papa. Aidez les potes, y'a pas papa, y'a pas papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Aidez les filles, bijou chouchou, lidi gata, coucou zizi, mimi papa, y'a pas papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Piqué dans le frigo, y'a tout ce qu'il faut. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi donc de la voilà papa. Et dis Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi donc de la voilà papa. Et Cristobal, laisse donc ce service de cristal. Papa n'est pas seul, qui donc qui l'amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini, rigolade, la la, quelle salade. Et t'es des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que trotte avec Diana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et t'es des potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est vétuste, tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça c'est du vrai trapèze, ça c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, où est les papas, où est les Diana, où est les Charlotte, où est les Didi, où est les papas, où sont les filles, où est les papas, où sont les filles, où est les papas, où sont les filles, où est les papas.
Et dis Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
Pardon.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Canu dans la causerie. Il est 22h et 6 petites brouettes. Et Radio Canu, la causerie. La causerie, vous pouvez toujours nous joindre sur. Alors, sur. Je vais vous donner les infos. J'essaie sure. Juste de régler un peu mon micro. Sur. Vous pouvez nous envoyer donc des mails, pardon, à la causerie. canu@gmail.com.
Bravo.
Merci. Et on a aussi un espace blog en fait où vous pouvez retrouver tous les podcasts des émissions précédentes et toutes les autres.
Hein. Mais où est-il ce blog? Où Mais est-il?
Dites-nous où il est ce blog.
À blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Superbe. Ouais. Et en fait, je me rends compte
que personne sait qui on est.
Que personne s'est présenté. Bah oui, c'est Jean-Yves à la technique, il lance le truc, donc forcément ça merde un peu. Donc vous entendiez chantonner Fabien sur ouais. Bobby.
C'était pas prévu que je chantonne. Ben mais non, j'ai chantonné
mais
quand même.
Chantonné. Et il y a Emma avec nous.
Oui, oui, bonsoir, bonsoir.
Désolé pour cette erreur.
Et il a fallu 95 émissions pour que les gens sachent, enfin, qu'ils soient au courant d'eux, que c'était bien à la fin après Fab. Voilà.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est pas grave, je m'appelle Fabien, c'est pas dramatique.
Voilà, c'était drôle. Pardon.
Voilà. Et Facebook aussi, tu n'as
oui,
pas annoncé.
Effectivement, on a aussi une page Facebook où vous, en fait, vous retrouvez en fait à chaque fois le lien ouais. qui vous amène sur le blog, en fait. Parce que ouais. bon, bah,
c'est mais juste... on va juste dire aux gens qui nous écoutent qu'en fait, c'est, Facebook, c'est pratique pour communiquer, machin, tout ça et tout. On est bien conscient, pardon. Mais alors, Emma disait, on n'est pas des
Community manager.
Voilà. Donc, si vous avez un mail à nous envoyer, envoyez-nous le plutôt sur le mail, parce que ça, on le consulte vraiment souvent.
Oui.
Alors que la page, on y va une fois par semaine pour mettre le lien, et c'est à peu près tout. Et du coup, c'est pas très pratique pour communiquer rapidement. Quoi.
Ben voilà. C'est dit.
Ben oui.
Et ben, comme d'habitude, la causerie, on va vous causer de différentes choses, plein de sujets ce soir, et je crois que c'est assez varié. Et ben c'est Fab qui commence, tu veux nous parler
Alors moi je vais vous parler d'abord d'un film et ensuite des conséquences de ce film. Alors là, ils n'ont pas forcément bien présenté ma chronique, mais vous allez super comprendre. En fait, je vais vous reparler ce que je vous avais dit d'aller voir Interstellar. Je vous avais dit c'est un super film de Christopher Nolan, il faut aller voir Interstellar. Et moi je le redis, il faut voir Interstellar, c'est un film magnifique. Alors pas sur le plan cinématographique uniquement, parce que oui, il y a quelques poncifs hollywoodiens et que ça peut être un peu fatigant, mais parce que pour moi c'est quand même un des rares et un des premiers films que l'on ait qui a l'avantage de ne pas nous parler de Dieu et de nous parler de science, ce qui est assez rare avec les films hollywoodiens, et du coup c'est plutôt cool. Et ce que je trouve intéressant dans Interstellar, c'est justement que Christopher Nolan et son frère ont réussi à rendre la science super joyeuse et super fascinante, et ça donne envie de rêver avec les scientifiques et la science. Et ça, c'est plutôt positif. Alors, je repars d'Interstellar. Pourquoi ? Bah, d'abord, parce que oui, c'est sa sortie en ce moment, DVD, machin et tout, mais c'est pas pour ça que je parlais de ça, c'est parce que ça m'y a fait penser. Et c'est surtout parce que j'ai lu deux articles très intéressants. Alors, le premier nous vient du Washington Post. Alors, je ne sais pas du tout quelle est l'orientation du journal le Washington Post, mais c'était intéressant parce qu'il disait que depuis la sortie d'Interstellar aux États-Unis, le nombre de demandes pour faire des études de sciences avait été... ils estimaient qu'elles avaient augmenté de 39%, ce qui n'est pas rien d'avoir ça. Et ils reliaient bien ça à Interstellar, parce qu'en fait, aux États-Unis, quand vous remplissez vos dossiers de pourquoi est-ce que vous voulez faire de la science, et ben, y a des gens marquaient parce que j'aime bien savoir ça, 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 et puis parce que j'ai adoré Interstellar. Donc du coup, ça a permis de voir un petit peu qu'il y avait un effet du film sur l'envie d'aller apprendre des choses à la fac ou à l'école, enfin ou au lycée. Et ça, c'était le premier article. Et le deuxième article que j'ai lu, qui était en contradiction avec ça, qui était plutôt intéressant, enfin pas en contradiction, mais qui venait se choquer avec ça, c'est qu'en France, dans tous médias confondus, la science tient moins de 5% des sujets abordés. C'est-à-dire qu'on parle à peu près 5% des sujets abordés. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, 33% concernent les people, c'est-à-dire les gens qui sont connus, tout ça, les acteurs, les machins et tout. 29% concernent les faits divers, je le fais de tête, hein, parce que j'ai oublié de me les noter. Donc, si je me trompe, vous voilà. Et surtout, chose très intéressante, le sport arrive en troisième position. Vous voyez, donc voilà, c'est... Donc, vous voyez, déjà, on a 33%, 29%. Le sport, je ne me rappelle plus, mais ça doit être de l'ordre de 20 et quelques pourcents. Donc, vous avez à peu près 70% du temps qui sont pris uniquement pour des choses, alors on va pas dire futiles, mais qui n'ont pas un impact direct réel sur la vie. Et la religion arrive en quatrième position, donc c'est-à-dire qu'on parle plus de religion dans les médias, j'ai plus le pourcentage exact, que de science, mais c'était quasiment le double, si même à bonne, ça doit être dans l'ordre de 10%. Donc c'est intéressant quand même, parce qu'on voit que bah, la science, c'est un petit peu le vilain petit canard des médias, de tout ça, et que finalement, on a toujours l'impression que bah, les scientifiques, c'est des gens un peu austères, un peu la science, c'est chiant, et puis bon, il faut apprendre des trucs, et puis c'est des formules mathématiques, et puis tout ça. Alors qu'en fait, la science, c'est pas que ça. La science, on l'a autour de nous, on l'a dans la vie, et auditrices et auditeurs, vous l'avez dans les oreilles, par exemple, parce que si vous nous entendez, c'est grâce à la science. C'est parce qu'il y a des gens qui ont inventé la radio. Et si vous nous entendez avec un son beaucoup plus clair qu'il y a 30 ans, c'est parce qu'il y a des gens qui ont inventé l'AFM. Et vous voyez, c'est tout ça, c'est des avancées scientifiques. De la même façon, si vous mâchez du chewing-gum, c'est la science. Si vous vous habillez avec du nylon, c'est la science. Et puis même, d'ailleurs, si vous vous habillez avec du coton, parce que l'invention du métier à tisser, c'est aussi scientifique. Et la science, c'est tout ça. Et ce qui est problématique, c'est que tout ça, ça nous entoure et qu'on n'en parle jamais. Donc du coup, c'est là qu'est le problème. Et ce qui, moi, m'a plu, en fait, dans l'idée qu'un film puisse réveiller des envies de science, alors je le disais quand on a fait la prépa, oui, il y a sûrement des gens qui ont eu envie de monter sur un balai après Harry Potter pour voir si on pouvait s'envoler, ou des gens qui ont envie d'essayer le sadomasochisme après 50 nuances de gris. Mais c'est le principe du cinéma. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Interstellar, c'est la première fois qu'on parle de science et qu'on fait pas semblant. C'est-à-dire, c'est pas la science-fiction avec des choses qui seraient pas cohérentes. C'est-à-dire que les frères Nolan, ils ont essayé de faire quelque chose de cohérent et avec. Alors, certes, on ne sait pas si ce qu'ils décrivent serait totalement possible, mais en s'appuyant sur les données scientifiques connues aujourd'hui pour faire quelque chose qui serait probable. Vous voyez, c'est un peu le principe de la science. On ne sait pas si c'est vrai. On sait que c'est extrêmement probable. Donc c'est très intéressant parce que ce film qui était quand même censé être chiant à mourir parce que ça parlait de science, ben il a vachement plu et il a donné envie. Et moi je me dis que si on parlait un peu plus de science tous les jours, si on en mettait un petit peu plus dans les médias, mais pas de façon bébête comme on peut le voir trop souvent, je pense à une très très bonne émission que je vais les citer qui s'appelle On n'est pas des cobayes, qui est sur France 5 et qui est une excellente émission de vulgarisation scientifique par exemple. Si on avait des émissions comme ça un petit peu plus parsemées à la télévision, si dans les journaux on parlait de science pour autre chose que de faire du sensationnel à 3 balles et qu'on parlait de la science pour ce qu'elle a de beau. Je veux dire, par exemple, quand on découvre que on a découvert une exoplanète qui ressemble à la Terre et qui a des milliards d'années-lumière, des milliards de kilomètres de chez nous, et que donc on n'ira jamais, mais c'est juste le plaisir de savoir que ça existe et que c'est cool, bah, c'est mieux que d'écrire un titre du genre « Ah, la vie est possible ailleurs !» Bah non, pour l'instant, la vie elle n'est pas possible ailleurs parce qu'on ne sait pas faire des milliards de kilomètres, mais oui, il y a peut-être la vie là-bas, puis on s'en fout si elle y est ou pas, parce que l'essentiel c'est de la chercher, et puis si on la trouve, ce sera encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il faut garder un côté marrant et fun à la science, et que souvent on lui donne un côté sensationnel, alors que c'est pas forcément ce qui est recherché. Et c'est pareil dans les journaux, enfin les journaux télévisés ou les journaux radio, on parle jamais de science, sauf quand c'est la période des prix Nobel. Mmh. Et là on vous dit, ah, ils ont eu le prix Nobel parce qu'ils ont inventé ça, ça et ça, mais en fait, vous comprenez rien, parce qu'on vous a jamais expliqué sur quoi ça portait. Alors par exemple, la sélection du prix Nobel, c'est 2 mois et demi avant. Donc ça laisse quand même le temps de présenter les différents projets qui ont été proposés au prix Nobel et puis de les vulgariser, d'expliquer à quoi ça peut servir de chercher sur telle molécule, sur telle petite bébête, sur telle petite bactérie, sur telle... Sauf qu'on le fait pas, parce qu'en fait, moi je crois, c'est une conviction personnelle, que c'est parce que plus on parle de science et moins on parle de Dieu, et finalement ça embête un petit peu certaines personnes qu'on parle beaucoup de science, c'est-à-dire que quand on arrive à vulgariser les choses, du coup ça les rend un petit peu moins mystérieuses, et quand il y a moins de mystère, on est un petit peu plus émancipé, parce que la science c'est quand même le chemin de l'émancipation, et oui, ça fait aussi partie des rouages de l'émancipation. Et alors c'est drôle parce que je vais après, on va débattre un petit peu tous les trois, mais c'est marrant parce que je vais vous citer un exemple très concret et que j'ai gardé sous l'escarcelle à moi pour qu'on l'a... Non, c'est surtout que je viens de me revenir. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une météorite qui a atterri en Russie et qui avait fait quelques dégâts parce que c'est très rare que les météorites atteignent le sol sur des zones habitées, parce que ce n'est pas rare qu'elles atteignent le sol, mais c'est rare que ça arrive en zone habitée. Là, ça avait fait des dégâts. Et assez vite, était née une théorie du complot, que c'était un essai de missile, machin et tout, et que tout ça, c'était pour cacher un essai, blablabla. Et en fait, il y a un scientifique qui disait, si les gens savaient ce qu'est une météorite, si les gens savaient que des météorites qui atteignent le sol, il y en a, mais tous les jours, en réalité, quasiment, sauf que généralement, elles tombent dans des endroits où il n'y a personne, c'est pour ça qu'on ne les voit pas, ou même en pleine mer, parce que je vous rappelle que la Terre est couverte à 70% d'océan, donc quand ça tombe dans l'eau, personne n'est là pour y voir, et qu'en fait le phénomène qu'on voyait visuellement était typiquement un phénomène de type météorite, vous n'auriez pas eu cette théorie du complot à 3 balles, qui finalement a pris plus de temps à expliquer ça, plutôt que d'expliquer aux gens, par exemple, et j'aimais beaucoup son exemple, ce monsieur, que la plupart des métaux rares que l'on a sur notre planète nous vient des étoiles, parce qu'ils viennent des météorites, et qu'aujourd'hui, si vous utilisez un smartphone, c'est parce qu'il y a des métaux rares. Et là, ça devient intéressant, non, de se dire que la science, ça peut nous rendre un petit peu moins bêtes. Mmh. Voilà. Ouais. Donc, c'était l'exemple que j'avais en tête et je trouvais ça bien. Ouais. Alors, vous voulez de la science, vous ou pas, la radio, tout ça?
Oui.
On va la faire un petit peu en jouer.
Je ne sais pas si vous voulez...
Ah non, moi, j'allais juste dire que pour la télé, en tout cas, j'ai repéré un petit créneau où on pourrait avoir des émissions scientifiques, justement. Vous savez, c'est le dimanche matin de 7h à midi sur France 2, à la place de la messe, suivie de l'explication des 3-4 émissions de religion. Bah, par exemple.
Par exemple. Mais non, mais c'est typiquement c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que c'est très très bon exemple que tu donnes, Emma. C'est que sur le service public, on a 4 heures de religion tous les dimanches quasiment. Mais vous avez déjà vu 4 heures de science ou 4 heures. Enfin, c'est extrêmement rare.
Oui, mais les gens n'en veulent pas, vous savez.
Justement, Interstellar prouve le contraire. C'est un film que les gens sont allés voir. Et pourtant, moi qui l'ai vu, je peux vous dire que il y a des dialogues dans le film. C'est limite abscon, c'est-à-dire quand vous êtes là, vous le regardez, vous dites « Ok, donc ils sont à côté d'un trou noir, donc ça fait ça. Mais, » mais vous n'avez pas forcément compris ce qu'il a dit le monsieur. Mais vous avez compris le principe, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la science, on ne vous demande pas de comprendre tout de A à Z, c'est de comprendre un principe, de voir que ça peut exister. Et justement, oui, les médias sont frileux parce qu'ils disent « Oui, oh, ça n'intéresse pas. » Alors après, on a des journaux qui existent, il y a Science et Avenir, des choses comme ça, mais ce n'est pas des journaux à très grand tirage. Et puis ça reste quand même lu majoritairement par des gens qui sont eux-mêmes déjà dans la science. Oui. C'est pas lu par, enfin, c'est des scientifiques, des chercheurs, c'est des étudiants, mais c'est rarement des gens qui en fait, ont juste envie de toucher à quelque chose, de vulgariser un petit peu des choses comme, je sais pas, la foudre, des choses comme ça. Non, mais ça paraît bête, mais expliquer la foudre, déjà, moi, je trouve que c'est magnifique, quoi. Enfin, voilà, voir que c'est pas une action divine et que c'est juste une décharge entre un nuage et la terre, quoi. Mais non, mais ça paraît. Mais il y a des gens qui croient encore à des choses complètement farfelues, parce que justement, on se refuse de parler du béaba. C'est à des choses qui sont très faciles à comprendre, mais que dont on parle pas. Et à l'école, c'est pareil. Le cursus scientifique à l'école est extrêmement léger. Si vous ne faites pas de la science, vraiment, si vous partez pas en S, en STL, enfin, des choses comme ça, des choses où il y a de la science. Oh, je dis STL, je suis passé pour un vieux, parce que ça... voilà. Mais si vous partez pas dans des filières technologiques ou des filières scientifiques, on vous parle pas de science. Si vous faites des lettres, on vous parle jamais de science. Donc voilà. Et c'est
alors un truc genre même, CAP même... ou autre, je te rassure.
Mais, oui. Mais justement, c'est un très bon exemple.
Mais oui.
Moi, j'étais hyper choqué, par exemple, que dans les parce que ça, je l'ai vu, je sais plus dans quel cadre. Excusez-moi. Mais dans les CAP de boulangerie et dans les CAP de pâtisserie, on n'explique même pas ce qu'est la fermentation. Alors que c'est la base du truc. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'il y a des levures, mais on vous explique pas comment ça marche.
Oui, c'est ça.
Alors que c'est pas très compliqué d'expliquer que c'est un être vivant qui va créer du CO2 et que ça va faire des bulles. C'est tout bête. Mais on prend même pas le temps d'expliquer ça, de peur que si les gens se mettaient à maîtriser leur métier en plus.
Oui, mais alors, t'as ça et puis même, enfin, je pense que encore une fois, c'est comme plein de choses. Enfin, il faut aussi, je pense qu'il faudrait le tourner aussi vers les enfants. Il s'agit pas de manipuler mentalement les enfants, mais non. C'est de les ouvrir, de leur faire des expérimentations, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est rendre aussi cette matière, on va dire, qui n'est que scolaire, la rendre vivante. Mais au final, parce que la science, elle est vivante, en fait. Elle est tout le temps, à chaque instant, en fait. Il y a des choses scientifiques qui se passent. Et au final, effectivement, ça occupe 0,05% de notre temps, quoi.
Mais c'est ça.
Et ouais.
Par exemple, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la plupart des grands magiciens qui font des super tours de magie sont généralement des super bons en science. Parce que la science, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire que c'est ça le truc, c'est pas que des trucs négatifs. Ou moi, je sais que les anti-scientifiques, généralement, ils me disent « Ouais, mais la science, c'est la bombe atomique ». Oui, c'est la bombe atomique, c'est vrai. Mais je pense qu'on s'entretuait avant la bombe atomique, a priori. Mais c'est vrai que c'est aussi la bombe atomique. Mais par contre, dans le même genre, c'est-à-dire le fait de pouvoir connaître la radioactivité, c'est aussi le scanner qui sauve des millions de vies par an. Alors, je sais pas, il n'y a pas que... Voilà, il ne faut pas non plus être manichéen.
En plus, c'est opposé... Enfin, comment dire, les capacités de compréhension des choses ne déterminent en rien
ce qu'on va en faire
les applications.
C'est clair.
La science reste la science. Ah, ensuite, si on en fait de la merde, c'est parce que nous, êtres humains, on en fait de la merde.
Oui,
exactement.
Oui, c'est qu'elle est passée entre les mains de quelqu'un. Quoi.
Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, la science en elle-même, je sais pas si elle.
Mais voilà, moi, c'était mon cri d'amour pour dire qu'il faut qu'on fasse plus de science et qu'on en fasse plus souvent.
Ouais.
Voilà, parce que je pense que ça aiderait beaucoup, et même y compris des enfants qui sont un peu paumés et qui comprennent pas tout de la vie, et des fois, de pouvoir la comprendre par l'explication des phénomènes, ça les rassure. Non, mais c'est
ouais, si, ouais.
Vous savez, quand on dit, enfin, le truc tout bête, hein, c'est quand il y a un orage, par exemple, et qu'on dit à un enfant, oh, mais tu sais, c'est la foudre et c'est une éclair. Alors, on vous regarde, il dit oui, puis si vous lui expliquez ce que c'est, il en a moins peur, parce que d'un seul coup, vous dites juste, mais c'est pas grave, c'est juste un peu d'électricité, t'inquiète, c'est pas dramatique. Et là, d'un coup, vous le détendez.
La compréhension diminue les peurs.
Et oui, et la compréhension amène vers... Je l'ai dit tout à l'heure, L'émancipation.
L'émancipation. C'est quoi ce délire, la question?
Eh ben, c'était, oui, c'était ma soirée
évangéliste.
C'était ma soirée évangéliste de la science. Et donc, je le fais façon.
Alléluia. Oui.
Et lance la musique.
Allez, oui.
Vous êtes bien dans la causerie le dimanche de 22 à 23 heures sur Radio Canuit. Vous venez d'entendre un petit bout de la bande originale du film Interstellar dont je parlais au début, dont je ne vais pas la refaire, et qu'il faut aller voir, il faut voir Interstellar. Et c'est une BO qui est faite par Hans Zimmer, et je trouve que pour moi c'est une des plus belles BO qu'il y a eu cette année. Et là, si vous avez eu le sentiment que ça tournait, parce que c'était le but, ça donnait l'impression que ça tournait, c'est parce que c'est une scène où tout se met vraiment à tourner. Voilà, et que je trouve que c'est génial quand la musique accompagne aussi, oui, bien, aussi bien l'image. Et là, même sans l'image, on se rend compte que ça tourne en fait et que ça nous entraîne. Voilà.
Et je rajouterais juste vite fait quand même, avant que je reprenne peut-être le micro pour ma chronique, c'était peut-être dire qu'aussi, bah, dans la causerie, on va essayer de faire aussi 2-3 émissions, ouais, ou peut-être plus, avec bah, des connaissances, etc., qui sont astronome amateur.
Et pas astrologue, parce qu'on ne connaît pas Isabelle Tessier.
D'autres peut-être aussi de collectifs, de scientifiques, ouais, qui vulgarisent les choses, parce que je crois que c'est effectivement, enfin, on pense que c'est effectivement, ouais, intéressant, mmh, et important.
Et d'ailleurs, écrivez-nous, hein, si vous, ouais, avez, oui, des idées aussi. Hein, la causerie canure@gmail.com. Jean-Yves, tu voulais nous lire une lettre qui nous a été adressée à nous autres occidentaux.
Oui, en tout cas, c'est une lettre ouverte à la gauche et à l'extrême gauche. Alors, avant de vous la lire, je vais quand même vous dire où je l'ai trouvée. Donc, en fait, je l'ai trouvée sur le site wluml.org. Alors, toutes ces lettres mises l'une
derrière. Mais que veulent-elles dire ?
C'est ça. Et ben, ça veut dire Women Living Under Muslim Laws, donc femmes sous loi musulmane. Et c'est donc un site, en fait, qui partage des textes de militantes à travers le monde. Et je peux vous dire comment eux-mêmes se définissent avant de me lancer dans la lecture, quand même. Donc, en fait, ils se définissent comme un réseau international. Elles se définissent, pardon, un défaut de. Hein. Elles se définissent donc comme un réseau international qui offre information, solidarité et soutien à toutes les femmes dont l'existence est régie et conditionnée par les lois et coutumes censées être dérivées de l'islam. Voilà, donc il y a des textes dans plusieurs langues, en arabe, en français, en anglais, en russe, en chinois. Donc n'hésitez pas, il y a des textes vraiment intéressants qui permettent en fait de sortir de notre vision européano-centrée, parce que des fois on est un peu trop là-dessus. Et donc je vais vous la lire. Alors, nous sommes en train de nous faire massacrer par votre ennemi secondaire. Pendant que vous ne voyez que l'impérialisme US, et aucun autre, et le capitalisme qui exploite les masses dans les pays à majorité musulmane et dans leur diaspora, des enfants sont assassinés dans leurs propres écoles au Pakistan, comme ils le furent en Algérie pendant les années 90. Et les journalistes, les intellectuels, les artistes, les militants de nos mouvements de gauche, pas ceux de droite, sont décimés en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Les gens dans nos pays ne sont pas des diplomates représentant leur gouvernement corrompu et peu démocratique. Pourquoi les attaquer ? Nous ne pouvons supporter plus longtemps les justifications que vous apportez au nom de l'ennemi principal aux crimes commis par un mouvement d'extrême droite qui avance sous le masque d'un mouvement religieux que vous semblez incapable d'identifier en tant que tel. Il cible les gens ordinaires et la gauche de nos pays. Mais ni les gros intérêts, ni les organisations racistes et d'extrême droite. Il prétend avoir Dieu avec lui, ce qui le constitue en croyance supérieure. Par voie de conséquence, il crée des catégories de citoyens de seconde classe qu'il est licite d'éliminer physiquement. Il supprime toutes les libertés et les droits civiques. Il détruit les livres dans des autodafés publics. Il maintient les femmes à leur place, entre guillemets. Et jamais, au grand jamais, il ne combat le capitalisme. Ça vous rappelle le nazisme ? Jouerez-vous encore les Ponce Pilate de Munich à nos frais ? Pouvez-vous penser une seule seconde que votre abandon des forces progressistes dans nos pays et votre soutien à notre extrême droite peut aider à combattre le capitalisme mondial ? Qu'est-ce que ça a donné en Espagne en 1936 ? Voilà, c'est un court texte donc, que je recite, enfin je vais vous redonner les sources.
Les coordonnées. Oui.
Les coordonnées, en fait. Moi je l'ai retrouvé sur donc, wluml.org et il est issu au départ d'un site qui s'appelle Sécuralisme, pardon, is a woman's issue, qui veut dire la laïcité est l'affaire des femmes. Et donc le site, je vous le donne aussi, c'est siawi.org. Tout ça, je vous les remettrai sur le blog parce que c'est des sites, il faut retourner régulièrement, il y a vraiment des très très bons textes. Et j'avais envie de lire vraiment ce texte-là parce que effectivement, bah, ça fait du bien aussi d'entendre des voix qui viennent d'ailleurs. Parce que effectivement, je pense que des fois, on se trompe d'ennemis parce que. Des ennemis sont des ennemis de mes amis, alors forcément ils deviennent mes amis, enfin ça devient un truc où tant qu'on a un ennemi commun en fait on peut s'entendre avec tout le monde, sauf que je pense que ça se jouera sur la gueule des progressistes et que effectivement aujourd'hui je pense qu'il y a certaines parties de mouvements de gauche libertaires aussi, faut pas non plus se cacher, qui sont dans un relativisme culturel constant, qui pensent que selon certaines origines, selon certains trucs, et sauf que non, en fait, dans tout plein de pays à travers le monde, il y a des gens qui se battent, mais tous les jours, quoi, pour le droit des femmes, tous les jours qu'il y en a qui se font éclater la gueule parce qu'elles sont femmes, parce que ça sera un dieu, ce sera un patriarche ou je ne sais quel autre con, abruti, pardon, parce que on va bien un jour expliquer ce que c'est ce mot, ben, il aura décidé que, effectivement, la vie d'une femme vaut bien moins qu'une autre, et voilà, enfin, je trouve que c'est vraiment important et je voulais aussi en profiter pour parler en fait d'une petite situation qui s'est passée en Afghanistan. Il y a une femme en fait qui a été tuée et quand même quelque chose d'assez incroyable, c'est que ce sont des femmes qui ont porté ce cercueil. Elles ont dégagé les mecs et elles ont dit « Personne ne posera les mains sur ce cercueil une deuxième fois, en tout cas sur le corps de notre ami une deuxième fois. » Et je trouve que là, encore une fois, à fort...
Sur le corps de notre sœur, parce qu'en fait, ce n'était pas forcément des amis. Oui, c'est ça qui est, ça a été un vrai mouvement politique.
Effectivement, et je pense que c'est là aussi où il faut regarder. C'est que tous les jours, il y en a qui risquent réellement leur vie, réellement. Ils ne sont pas dans leur petit appart bien cool, bien sympa en France. Non, c'est la galère, c'est la merde tous les jours. C'est la mort qui rôde très souvent autour d'elle et d'eux. Donc voilà, je pense que là aussi, c'est à nous de justement choisir aussi avec les gens avec qui... qu'on a envie de regarder, quoi, c'est-à-dire que et de soutenir, quoi, merde. Enfin bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule du dimanche soir, 22h33, bordel.
Moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est effectivement, enfin, pour faire un parallèle avec l'article, c'est que j'ai l'impression qu'on est majoritairement dans une vision de, surtout dans, enfin, voilà, dans certains pays, avoir un certain système d'oppression. Qui est la religion, mais du coup, effectivement, sur les femmes opprimées qui sont croyantes, mais du coup, qu'on oublie un peu le vrai combat des athées et pour la laïcité. Et ces personnes-là sont trois fois plus opprimées parce que, en plus, elles combattent quelque chose qui est sacré dans le pays. Donc, et j'ai l'impression que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'aide de ce côté-là parce qu'on est trop, je ne sais pas, sous. Quelle mission on aime et à vouloir effectivement tendre la main à d'autres personnes, ce qui est plus ou moins juste. Mais du coup, on les laisse un peu de côté aussi, ces personnes qui font un combat aussi quotidien. Quoi.
Et ça rejoint d'ailleurs le livre que tu avais présenté, Blasphémateur, où Ali Dushaini parlait du fait d'être athée en Cisjordanie.
C'est ça.
Et ça lui a valu 11 mois de prison, je le rappelle, et de devoir et de torture aussi, c'est et ça. De devoir se barrer, parce que justement, il expliquait quelque chose, c'est que dans tous les pays où en fait on se cache derrière la religion, moi j'aime beaucoup sa vision des choses. Il dit ça, c'est un outil de pouvoir. Et après on joue avec qui est le plus religieux que l'autre. Et il y a des exemples très récents d'une femme qui a été brûlée vive parce que soi-disant elle avait brûlé un Coran. Elle a été brûlée vive, elle a été d'abord tabassée puis brûlée vive. C'est quand même quelque chose, je leur dis, d'extrêmement violent. Mais surtout après, on a le ministre, alors je ne sais plus, c'était en Afghanistan, je crois, qui dit « Ah oui, non, mais on sait que ce n'était pas elle, en fait, mais bon, voilà, c'est arrivé. » Vous voyez, c'est-à-dire que, ça. Bon, bah, c'était qu'une femme, quoi. Donc, il y a un moment donné, voilà, c'est voir ces choses-là en face, les regarder telles qu'elles sont, et surtout écouter et entendre les voix de celles qui parlent et qui écrivent. Mmh. Parce que moi, aujourd'hui, en 2015, quand on me dit « On n'arrive pas à savoir ce qu'elles disent ou ce qu'elles pensent dans les pays », c'est que les progressistes femmes pensent dans ces pays sous le joug de que ce soit de dictature ou de religion. Mais en fait, moi, ça me fait sourire. À l'heure d'Internet, c'est pas vrai. Si on fouille un peu, si on regarde un peu, on arrive à les trouver, les textes. Il y a même maintenant des travaux de traduction qui sont super bien faits et qui amènent quand même à pouvoir avoir, mais ne serait-ce qu'en anglais, même si on n'est pas super doué en anglais, on fait un Google Translate et on essaye un petit peu de se débrouiller. Mais je veux dire, voilà, il y a quand même la possibilité, la capacité aujourd'hui d'avoir de l'information. Et moi, je trouve que se voiler, quelle bonne expression, se voiler la face sur tout ça. Et parce que je rappelle quand même que se voiler la face, c'est se voiler la face devant Dieu. C'est pour ça que je disais, c'est quelle bonne expression. Et faire comme si ça n'existait pas, il arrive un moment où, ben non, écoutez-les, quoi. Et la lettre, moi, je la trouve magnifique parce que c'est un vrai coup de pied au cul, quoi. C'est, mais qu'est-ce que vous... Enfin, elles le disent, regardez l'impérialisme US, vous voyez pas les autres. Aujourd'hui, on a l'Arabie Saoudite qui intervient au Yémen directement. Je crois que c'est au Yémen, ça, oui, c'est les Sanaa, c'est au Yémen. Qui intervient au Yémen militairement avec 150 000 hommes et 45 avions. Et là, personne n'ose parler d'impérialisme. Mais c'est quoi? Prendre parti pour un des deux côtés et puis dire « Ah, bah attendez, moi je rétablis le truc parce que j'en vois... » Mais c'est de l'impérialisme.
Ils sont juste ultra bons, tu vois, bons avec la bonté, quoi. Hein,
voilà,
et
cet impérialisme-là, cette façon de faire-là, on refuse de l'avoir. Et c'est quelque... Enfin, majoritairement. Mmh. Et c'est quelque chose qui, moi, me dérange parce que, enfin, voilà, cette espèce de truc en permanence, enfin, voilà, qui me paraît personnellement plus servir d'excuse globalement plutôt que autre chose et qui veut éviter en fait d'aller se mouiller face à des vrais ennemis, quoi. Enfin, je suis désolé, je le dis comme je le pense, mais voilà, moi je suis très très content qu'elle nous envoie des coups de pied au cul comme ça.
Oui, et puis comme dit, je vous présenterai aussi un autre site, enfin le site d'où est tirée cette lettre, parce qu'effectivement, enfin je pense qu'il est aussi grand temps nous de sortir de nos petits lieux bien sympathiques, bien protégés. C'est bien, attention, tant mieux, hein, qu'on ait tout ça. Et c'est tant mieux. Mais à un moment donné, il faut aussi se rendre compte qu'à côté de nos petits lieux super protégés et sympathiques, eh ben, c'est la merde, quoi. Et ouais, qu'il ouais. faut aussi la voir, cette merde-là. Mmh. Parce que sinon, on ne soutiendra pas beaucoup les autres luttes. Hein.
C'est clair.
Voilà, voilà.
Tu as calé ton CD ?
Oui. Je vous propose qu'on y aille. Ouais.
Allez.
Allez. Bon voyage. Retour à la causerie, toujours sur Radio Canu de 22 à 23h, tous les dimanches. Et là, on vient de s'écouter The KVB, Alors, je sais pas comment on peut dire.
Kivibi.
Kivibi. Thank you. Et le titre, pardon, c'était All Around You.
C'était beau.
Ah,
oui.
Moi, j'adore beaucoup. Enfin, ouais. J'adore beaucoup. Ça veut rien dire, mais j'adore cette musique.
C'est sympa.
T'as le nom de l'album? Parce que tu l'as sous les yeux, celui-là, parce que d'habitude, on n'a pas l'album. Là,
c'est Out of Body. Excellent. Si vous avez l'occasion d'écouter, ouais, c'est tout est très planant comme ça. Eh bien, dernier sujet, en tout cas, avant les brèves, ce soir. Emma, je crois que tu continues tes correspondances, en fait, après une première lettre que tu as écrite à un potentiel tonton raciste. Et comme on disait hors micro, on a tous... au minimum un tonton raciste, hein, ne nous cachons pas. À moins qu'on soit dans une toute petite famille, qu'on n'ait plus personne, mais. Pardon. Ce soir, pardon. Tu as écrit une nouvelle lettre que tu vas partager.
Et oui, ce soir, j'ai écrit à mes copines féministes. Et du coup, oui, j'écris à mes copines féministes qui aiment bien faire des combats de qui est la plus féministe d'entre elles. J'écris aussi pour celles qui sont tellement occupées à écrire un féminisme universitaire qu'il en devient totalement élitiste. J'écris aussi pour celles qui préfèrent découper le monde en petites cases pour bien ranger tout bien comme il faut et qui te sautent dessus en te balançant. T'es plutôt essentialiste, constructionniste ou tu prônes l'intersectionnalité? Et puis j'écris pour celles qui sont devenues obsédées par le genre. Qu'elles oublient souvent qu'il y a un humain en fait derrière le cisgenre et que bien souvent aussi, on ne choisit pas forcément par exemple d'être un homme cisgenre et hétéro. Je suis désolée, mais ça me fait doucement rire quand ces dernières montent des groupes non mixtes, et vous le savez, dans le fond, je suis loin d'être contre ça. Où elles refusent l'homme cisgenre, mais où les trans sont bienvenus. Parce que oui, tu sais, toi, qui t'es toujours considéré comme un homme, qui est passé par des tas d'étapes bien difficiles, bah t'es content quand elles viennent te rappeler qu'un jour, tu as été une femme, et que donc, tu es plus susceptible de les comprendre qu'un homme cisgenre. Je salue aussi celles qui me regardent des pieds à la tête quand je débarque, qui en fait... tout simplement observe les signes de ma féminité. Mais en fait, moi, je me sens pas plus féminine en jean ou en robe. Je me sens pas plus féminine non plus quand je me fais les ongles ou quand je suis maquillée. Mais elles, qui sont censées lutter contre ce mot de la féminité, sont les premières à repérer ces petits signes, prouvant que je ne fais pas partie du même combat. J'écris pour toutes celles qui se permettent de parler pour les autres. Qui se permettent, par exemple, de parler au nom des prostituées, sans jamais, oh non, jamais, avoir juste pris le temps de réellement parler avec elles. Et puis merde, j'écris pour toutes ces lâches, qui ne savent même plus dialoguer et qui préfèrent envoyer de beaux mails d'insultes anonymes, bien sûr dès que quelqu'un pose une question qui les dérange. J'écris aussi pour ma copine qui me dit sans arrêt « Je trouve ça aberrant aujourd'hui d'être moins bien payée qu'un homme pour la même fonction. » Mais vous voyez, ça n'empêche pas ma copine aussi d'organiser des soirées entre filles, car comme si le fait de répondre au même genre nous donnait des tas de similitudes. C'est aussi la même qui te balance « Dans le fond, on a beau dire... hein, un homme, ça reste un homme. » En fait, cette copine, souvent elle poste des vidéos qui dénoncent sur Facebook. Et puis elle participe, toujours virtuellement, à des manifestations. Aussi, souvent, elle a supporté le mariage pour tous. Par contre, elle te dit, entre la salade et la viande, « J'aurais l'impression de louper un truc si je trouve pas le bon mec et que du coup je suis jamais mère. » J'écris aussi pour cette copine qui un jour m'a dit que j'étais trop extrême car je pensais par exemple enlever les scènes de viol dans les jeux vidéo. C'est con, hein, parce que dans le fond, on devrait tout être là à serrer les coudes. D'accord, on n'est pas obligé de s'entendre sur tout, mais de là à passer son temps à se déchirer. De plus, j'aimerais vous rappeler que l'ennemi commun est bien le patriarcat et non les hommes. Si vous voulez, je peux vous rappeler la différence, mais je suis sûre qu'il y a bien une de vos copines universitaires, doctorantes, qui se chargera de le faire, non ? Enfin, je pense pas qu'on gagnera à exclure des personnes de notre combat. Parce que vous voyez, moi je trouve ça cool que des hommes, oui des hommes cisgenres, comme vous aimez les désigner, soient tout autant remontés que nous. Je pense que je n'ai aucune envie d'être l'égale d'un homme tant qu'eux non plus ne seront pas libérés de sexisme, d'homophobie ou de racisme.
Voilà.
Ben voilà, ça c'est une
ça
lettre.
Ça fait du bien.
C'est une lettre bien envoyée.
Ben oui, je pense que tes copines seront aussi ravies que ton tonton. Mais en tout cas, ça mène à s'interroger, en tout cas. C'est... voilà.
C'est bien.
Mais oui. C'est...
Non mais voilà. Mais moi, je merci d'ailleurs Emma pour la lettre parce que c'est un exercice quand même d'écrire une lettre, je trouve. Et en plus, mais c'est un peu ça la causerie aussi. C'est-à-dire que c'est le moment où on pose des choses qui grincent un peu. On pose des on envoie comme ça quelques signaux, quelques messages. Mais on est très ouvert aux réponses. Bon, alors, pas anonyme et pas,
et pas, c'est ça.
Et pas d'insultes. Ce serait mieux. Ça changerait.
C'est plus constructif, en fait.
Voilà. Mais, oui, voilà. Mais je pense vraiment, oui, il peut y avoir du débat qui s'installe par des écrits interposés. Ça peut être bien. Voilà. On n'est pas, on n'a jamais été contre.
Non, on n'a jamais été contre. Voilà. Mais bon.
Mais voilà.
Ça n'est jamais arrivé.
Non, mais voilà. Mais moi, je tiens à dire, enfin, ça souligne quelque chose que tu disais, Emma. C'est drôle parce que, là, je reviens à une anecdote tout à fait personnelle. C'est le jour où on te dit, comme ça, on te réassigne malgré toi. Moi, ça m'est arrivé qu'on m'ait dit, toi, tu es blanc, cisgenre et hétérosexuel, ce qui m'a fait mourir de rire sur les trois, en fait, quasiment. Mais pas sauf le cisgenre, là. C'est vrai que ça, c'était vrai. Mais c'est drôle qu'on me réassigne comme ça d'un seul coup et qu'on me dise, du coup, t'as pas le droit de parler de ça. Et d'un seul coup, je me dis, mais alors, c'était dans un milieu libertaire, quand même. Et donc, d'un coup, tu te dis, alors, dans un milieu libertaire, on te réassigne le fait, on te réassigne déjà, et après, on te dit, tu n'as pas le droit de parler de ça. C'est déjà, il y a un problème dans la notion de dialogue et puis même dans la notion de liberté derrière. Et je trouve, tu as raison, cette espèce de fantasme qui est aujourd'hui. Je trouve que le genre est à la mode comme il y a quelques années où d'autres choses en ont été et que du coup, on essaye d'être plus genre que genre. C'est-à-dire, on essaye d'être ceux qui maîtrisons le mieux la dialectique du genre et machin et tout. Et en fait, c'est un peu, enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu ridicule et ce qui m'amuse, non mais je le dis, parce que je trouve que c'est un peu un brin ridicule, ce côté d'être plus extrême que les extrêmes, plus, enfin, voilà, meilleur que les meilleurs, enfin, il y a toujours un truc, voilà, c'est la phrase, enfin, ce qui peut le plus, peut le moins, là, elle m'agace terriblement, c'est un peu le principe, quoi, on est toujours au top du top. Et voilà, et c'est marrant parce que j'ai commencé à feuilleter, grâce à Jean-Yves, Refuser d'être un homme. Et il en parle justement dedans. Et il parle de cette notion, en fait, de ne jamais chercher à être le meilleur dans une catégorie. Genre, vous êtes le top du top du genre, vous êtes le top du top de l'anti-sexisme, vous êtes le top du top de l'anti-racisme. Et il dit, mais non, vous pouvez pas être le top du top parce que vous êtes humain. Et en fait, c'est ça le truc, c'est cette espèce d'oubli de l'humain, comme tu le disais bien. Et je trouve que, voilà, enfin, moi, c'est, voilà. Mais merci, ça fait du bien, ouais, effectivement.
Mais de rien.
Mais de rien!
C'est cadeau.
C'était offert.
Merci. On passe à la zic?
Allez.
Allez.
Take him by his lily white hand.
êtes de retour à la causerie sur Radio Canu et on vient de s'écouter Nick Cave avec PJ Harvey et le titre c'était Henry Lee.
C'était beau.
Ouais, c'était sympathique. Un beau duo.
C'était assez planant ce soir, musicalement, j'ai l'impression.
Ouais, dis donc.
On finit par un truc super dark. Ça tombe vachement bien. Restez avec nous.
Eh ben, on va attaquer les brèves de cette dernière partie.
Par la face nord. On attaque les brèves par la face nord.
Allons-y.
Je commence ?
Ouais, je peux commencer.
Allez, vas-y.
Allez. Eh ben, premier rendez-vous, et je crois que c'est un peu le seul, en fait, qu'on a cette semaine à vous filer, mais qui me semble assez intéressant, même très intéressant. Ça se passe vendredi 3 avril à la librairie La Griffe, qui est toujours dans le 7e arrondissement de Lyon, hein, effectivement.
5 rue Sébastien Griffe.
C'est ça. Et ça, c'est à 19h, donc. C'est une rencontre-débat avec Gaetano Manfredonia, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle
Histoire mondiale
de l'anarchisme, pardon, et qui retrace au final un peu la vie de ce mouvement politique de la Russie au Japon, en passant par les États-Unis. Enfin, le monde, quoi, bordel. Et que voilà, que c'est des idées qui ont germé en tout temps, qui continuent de germer. Et bah voilà, c'est l'idée, c'est le moment d'en discuter toutes et tous ensemble. C'est donc à La Griffe.
Et surtout que Gaetano Manfredonia explique en quoi les idées anarchistes ont eu une influence très positive, notamment sur la libération des femmes, sur la condition des salariés, sur la création des sécurités sociales et mutuelles. Enfin, tout ce que les gens ils savent pas trop et que c'est bien de le savoir. Donc viendez. Et il y aura de la manger après.
Il y aura de la mangeation, effectivement.
Il y aura de la mangeage.
Et ben voilà. Et qu'est-ce que. Ben voilà, pour le seul rendez-vous, en tout cas militant, comme on l'entend.
Oui.
Oui.
Et puis, ben, je crois que tu voulais. T'avais un truc à causer, non ?
Non, moi, c'est pas un truc à causer, mais j'y pense là, et c'était pas prévu, j'en ai pas parlé, excusez-moi. Non, mais c'est vraiment rien. C'est en ce moment, il y a une grève à Radio France, et moi, je voulais juste apporter mon soutien à tous les copains grévistes de Radio France, parce que bon, c'est de la radio, c'est une radio concurrente, mais bon. Mais voilà, non, mais sans parler de ça, c'est juste que. Allez voir pourquoi ils font grève, parce qu'il y a des gens qui font passer dans la presse que c'est juste pour des conditions de salaire et tout, c'est pas du tout vrai. Ils font grève parce qu'on est en train de détruire leur outil et qu'en fait leur outil c'est quand même théoriquement une radio neutre parce que enfin ou du moins une radio d'opinion mais pas aussi marquée que Canu on va dire mais surtout c'est une radio qui est censée être pas astreinte à la publicité des choses comme ça et qui est censée permettre justement de passer par exemple de la science hein vous voyez parce qu'on on y revient et en fait et ben ils expliquent qu'on est en train de transformer le groupe Radio France en groupe privé et qu'au final on veut complètement tuer l'esprit d'une radio où on peut entendre des choses qu'on n'entend pas forcément ailleurs voilà je voulais juste leur tirer mon chapeau parce qu'ils partent en grève illimitée et que ça fait maintenant 9 jours et que tenir 9 jours de grève c'est pas facile et voilà quand des gens sont en lutte c'est bien de les saluer.
Oui.
Tout à fait.
Voilà.
Et ben si on voulait reparler aussi d'un autre truc, c'est ça fait 2-3 semaines qu'on fait un appel à toi auditeur, à toi auditrice, si t'as l'envie et la manière pour faire un petit générique, et ben nous on n'est pas contre.
Oui parce que dans 5 émissions c'est la
centième.
Cotillon, poum!
Waouh, tu fais super bien les cotillons.
Tu fais super bien le cotillon, le serpentin.
Non, on ne peut pas tout vous dire. Mais arrête! Oh là là, la langue de belle-mère! C'est super! Vraiment, c'est incroyable.
Voilà, c'est soirée imitation de merde.
Eh bien, heureusement que la journée se termine bientôt.
Oui!
Donc, on vous rappelle, si vous avez vraiment l'envie de faire un générique plutôt, effectivement, pour ouvrir la causerie, nous, on est preneurs et preneuses, parce que voilà.
2 minutes, si c'était possible environ. Et d'ailleurs, en déconnant, on disait qu'on vous offrirait des autocollants, tout ça, machin, tout, mais c'est vrai, on les offrira. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Mais en plus, je pense qu'on peut quand même dire que si vous avez envie de nous expliquer comment vous est venue l'envie de faire le générique à la radio, on pourra le faire même par téléphone, parce qu'on sait faire.
Ça peut être sympa, un
petit insert donc n'hésitez pas alors envoyez-le à lacauseriecanu@gmail.com et puis voilà on sélectionnera celui qui nous plaît le plus puis voire même on passera ceux qu'on n'a pas sélectionnés pendant la centième oui parce qu'on va en avoir 1000
bien sûr.
D'accord ouais
oh, mais quoi, il faut donner l'envie
non mais il n'y a pas de problème on peut faire aussi
un appel à dons.
Canu, ça continue.
Emma, est-ce que tu sais pourquoi on fait un appel à dons ?
Parce que le loyer a augmenté.
Et oui. Et qu'est-ce qu'on a envie de devenir ?
propriétaire.
Ouais, c'est une soirée avec Jacques Martin. Ce soir, pardon, c'est la fin de la causerie, on se lâche un peu. Oui, et donc, et bah, si vous voulez nous aider à devenir propriétaire, comme le disait si bien Emma, et donc, en fait, pouvoir s'astreindre, enfin, se soustraire plutôt à l'augmentation de loyer du quartier, et peut-être même qu'on pourra rester dans ce local-là, et ce serait cool qu'on reste dans la vie du quartier ici. Voilà, et puis, on va être au cœur de Lyon, c'est quand même intéressant. Et bah, il faut écrire à Radio Canu, boîte postale 1101, 69 201, Lyon CEDEX 01. Voilà. Et le J, on t'a croisé en voiture tout à l'heure, tu sortais de la mairie. Alors, bah, tu peux faire un chèque à titre individuel, mais on veut pas d'argent de la mairie, par contre. Donc, voilà. C'était pour signaler pourquoi on voulait rester indépendant, oui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, c'est pour rester indépendant de la publicité, mais aussi des pouvoirs politiques. Donc voilà.
Qui serait bien content d'avoir une petite radio à leur botte.
Eh ben,
mais ils en ont déjà.
Alors une de plus, t'imagines bien.
On va leur laisser. Et donc sinon, si vous voulez faire un virement, allez sur radiocanu.org, il y a l'IBAN là-bas pour faire ça.
Ouais, et voilà. Puis vous retrouvez aussi sur le site de Radio Canu. Oui, il y a les blogs aussi de toutes les émissions qu'il y a sur Radio Canu, parce que Radio Canu, bah oui, c'est effectivement la causerie, bien évidemment, mais aussi...
Accessoirement,
il y a d'autres émissions. Non, sérieux, il y a plus de 50 émissions sur Radio Canu. Ouais. Ça va être
56 aujourd'hui.
56, ça va être Cannabis Circus autour de, bah, justement des politiques autour de répression, autour du cannabis et des drogues plus généralement. Au Canu Info, tous les soirs, avec une lecture des informations un peu différente.
À l'anticarcéral,
en
passant par les musiques concrètes et actuelles et en passant par plein de choses. Donc voilà. Allez voir la grille, baladez-vous sur le Canu.
C'est hyper riche en diversité, Canu. Ouais. Donc voilà. Et ben quoi d'autre si, et puis vous, sur le site internet toujours encore effectivement vous pouvez aussi trouver l'historique de Radio Canu, et je trouve que c'est hyper intéressant de s'y replonger un petit peu, parce que c'est un outil important qui est né des radios pirates, etc. Et je pense qu'on a tout intérêt, si on est des militants, des militantes, à se dire qu'il faut qu'on ait des outils quand même comme ça, parce que c'est quand même vachement bien.
Mmh. Ben ouais.
Parce que le jour où il n'y a plus les micros de Radio Canu ouverts, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ouvriront plus, en fait, la bouche.
C'est clair.
Donc voilà.
Et sur le blog des archives, vous retrouverez le concert qui avait été diffusé le 17 janvier, qui avait été rediffusé le 17 mars sur Radio Canu, enfin des morceaux. Et donc voilà, vous pouvez retrouver l'émission là-bas. C'est cool aussi de réécouter un petit peu ce qu'on fait en rôle les murs, c'est sympa.
Oui. Yes.
Voilà.
Mais c'est magnifique. Bah,
c'est bien, on est presque à l'heure. Alors après nous, il n'y a plus les yeux grands ouverts parce que Rémi a fait sa dernière la semaine dernière, mais comme peut-être il nous écoute, on lui fait un coucou.
On salue.
Et puis on va se quitter en musique.
Yes.
Voilà. Alors vous voulez dire au revoir avant et je dis après ce que c'est.
Oui, allez, bonne semaine, tout ça.
Oui, ouais. Plein de courage, tout ça, parce qu'il en faut.
Il en faut beaucoup. Donc, gardez la pêche et gardez la lutte. C'est surtout ça qu'il y a.
Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Ouais. Et surtout, tu ne coupes pas tout de suite, je n'ai pas encore donné le titre.
Il n'y a pas de souci.
Et donc, on va se quitter avec Ronia. Alors, ça s'écrit R-O-N-I-I-A. Voilà. Et c'est Last Words. Et vous allez voir, j'ai laissé exprès la version clipesque du titre. Et il y a 20 secondes de son très étrange au début.
Oh, tu nous gâtes.
Et avant ça, on dit peut-être juste aussi un coucou à Nadège, à Jonathan et à Clara.
Ah bah oui.
Ils ne sont pas là ce soir, mais on retrouvera aussi très prochainement.
Par-ci, par-là.
Par-ci, par-là, avec parcimonie.
C'est parcimonie.
Oh, je ne sais pas. En tout cas, tu lui passes le bonjour.
Allez.
Bonne semaine.
Ciao.
Cool.